Bonjour à toutes et à tous, chers amis, auditrices et auditeurs. Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle manière de faire bande à part. Je suis Audrey Beldine, nous sommes sur les ondes de Radio Alliance Plus pour votre émission d'histoire de l'art ouverte à tous, bande à part, qui donne à entendre ce que vous pourriez voir. Aujourd'hui, nous marquons de nouveau un arrêt au Musée des Beaux-Arts de Nîmes en nous intéressant à une œuvre de François Boucher. Cette œuvre, titrée « L'éducation d'un chien ou l'obéissance récompensée », est une toile peinte à l'huile. Elle est de taille modeste, car elle n'excède pas 50 cm sur ses côtés. Rapidement, je vous propose un survol, enfin pas si rapide que ça d'ailleurs, parce que plutôt assez complet, de la biographie de François Boucher, qui est né en 1703 et mort en 1770. Ce peintre incarne le XVIIIe siècle et ses modes. Il reflète dans ses activités artistiques les mutations sociales et de mœurs de son époque, autant que le succès des genres mineurs et de ce que j'appellerais la peinture de l'intime et de l'émotion. L'itinéraire artistique de François Boucher est marqué par la variété des médiums auxquels il s'adonne. À ce titre, j'aime à le surnommer François le prolifique. Initié à la peinture et au dessin très jeune par son père peintre et membre de l'Académie de Saint-Luc, il est connu pour son activité de dessinateur, graveur, illustrateur d'imprimerie, décorateur d'intérieur, à savoir de palais, de théâtre et d'opéra, créateur de tapisseries de lys et surtout de peintre. Dans ses peintures, il papillonne et traverse le siècle, passant de la peinture d'histoire à la mythologie, aux scènes rustiques et animalières, à la pastorale, au paysage et bien évidemment à la demande grandissante de la noblesse et de la nouvelle bourgeoisie émergente, du portrait. Remarqué très tôt et de son vivant, il fut peintre de cour sous Louis XV et surtout le protégé de la maîtresse du roi, faite marquise de Pompadour, dont il peignit plusieurs portraits. Sa carrière est donc prime sautière et rythmée. On parlerait de nos jours d'une véritable success story, mais derrière cette apparence virevoltante et cette frivolité très 18e, celui que l'on tient souvent comme l'inventeur du style rococo la doit à un travail acharné et un appétit qui ne faiblit pas, pas même avec le temps. Pour preuve, dès sa vingtaine, François Boucher vit de son art. Passé rapidement par l'atelier du peintre Lemoine, il est d'abord artiste copiste en quelque sorte, puisque rattaché à des travaux d'imprimerie, à la demande d'un collectionneur, qui lui commande la reproduction en gravure des œuvres de Watteau, dont il prendra pour ses premières œuvres le style. Très tôt, il prétend à devenir académicien. Il soutient le concours à 20 ans et en obtient le premier prix. Mais sur le veto du duc d'Antin, dont il n'a pas la faveur, il voit le voyage à Rome et la bourse qui va lui échapper, ce dernier étant en charge des bâtiments du roi. Qu'à cela ne tienne, à force de travail et d'économie, il part à Rome en compagnie de Karl von Loo pour étudier comme élève libre à partir de 1727. Déjà, à cette époque, le directeur de la maison qui les reçoit remarque son talent et son assiduité au travail. Après 4 ans à Rome et en Italie, il rentre à Paris en 1731. Il est alors âgé de 28 ans et aussitôt admis, la même année, à l'Académie royale de peinture. Dès lors, les mondanités s'ouvrent à lui et les commandes de la belle société affluent. Sa fortune est rapide, puis constante, autant que sa renommée. Dès 1734, il collabore aux éditions et ensemble de la tapisserie de la manufacture de Beauvais, à la demande du maître Jean-Baptiste Oudry. En 1755, il en prend la direction, les manufactures s'appelant désormais Manufactures des Gobelins. Quoique sujet aux inspirations des maîtres, comme Watteau, il finit par trouver un style bien à lui, un peu précieux, utilisant des coloris brillants, mais aussi des tons pastels, des lignes serpentines et une profusion d'accessoires pittoresques. Le tout dans un savant mélange liant convention et naturalisme, observation et fantaisie, innocence et ambiguïté. À cet égard, la petite scène de genre qui nous occupe se fait une belle illustration de ce style foisonnant et frivole. Appelée l'éducation d'un chien ou l'obéissance récompensée, peinte en 1768, la toile combine tous ces éléments précités. Nous assistons à une scène à trois personnages, une jeune fille, un jeune homme et un chien. Dans un paysage de nature très affectée, comme en témoignent les frondaisons archétypales des arbres qui font le décor et la fontaine pittoresque sur laquelle s'adosse le jeune homme et s'accoude la demoiselle, on assiste à une scène de repos. Sans doute sommes-nous l'après-midi, la jarre est renversée, les paniers sont vides de provisions et le garçon tient une dernière bouchée de nourriture en direction d'un petit chien qui, se dressant sur ses pattes, mérite récompense sous le regard attentif de la jeune fille. Classiquement disposés en triangle, les personnages dessinent une construction pyramidale rigoureuse, accentuée par l'élévation de la fontaine. Mais cette convention bien ordonnée est brouillée par le fourmillement de détails. Panier, chapeau, cap à même le sol, tas de bois, rosiers sauvages, angelots ornant la fontaine, source abondante ou encore rose épanouie au corset de la demoiselle. Sur ce petit tableau, a priori commandé par un intendant du roi pour son cabinet, autrement dit son bureau, il y a une action principale, mais aussi de nombreux points d'accroche pour le regard du curieux. C'est une invitation à l'évasion, à laisser son esprit battre la campagne, fantaisie, pastorale et idylle, contenue, sont au rendez-vous. Mais derrière cette apparente légèreté, François Boucher permet une double lecture. Il y a d'un côté la scène pastorale, de l'autre, la scène galante. Derrière cette frivolité, nous allons voir que se dissimule une sorte de morale bien à lui. Pour basculer de l'innocence de la scène pastorale à la scène galante, il nous faut nous arrêter sur le personnage inattendu, le chien. Que vient-il faire au milieu d'un couple d'amoureux? Qu'elle soit le fait d'une jeune fille qui veut plaire, ou d'un jeune homme aux manières de gentilhomme qui l'aurait accroché là, tel un cadeau ou comme métaphore d'un trophée, puisqu'ici la rose n'est plus sauvage mais a été cueillie, la rose au corsage de la jeune femme trahit, sinon une intimité avancée, un compagnonnage régulier entre les deux personnages. Mais revenons à ce chien. Son maître le dresse, il fait le beau, il va recevoir une gourmandise, la leçon de dressage est parfaite et la demoiselle est au spectacle. Mais ce chien est aussi un symbole. Peut-être même la clé de voûte d'une interprétation galante de la scène. Si l'on se penche sur l'iconographie, à savoir l'histoire du chien dans la peinture, nous voyons une belle évolution. Au Moyen-Âge, le chien est utilisé à titre de motif. Il représente la loyauté, la fidélité, parfois l'envie. Il apparaît dans des scènes de chasse ou de banquet. Il est encore un objet puisqu'il est le chien serviteur. Il rend des services à l'homme, à la chasse, en préservant ses récoltes des nuisibles, il est toujours à ses côtés, parfois récompensé. Au XVe, s'amorce une petite évolution, telle qu'au XVIe, le chien serviteur est devenu chien compagnon et s'est introduit dans les intérieurs des maîtres. En 1434, les époux Arnold Fini de Jean de Van Eyck amorcent ce changement. Dans le tableau, on y voit un chien au pied des époux dont le double portrait officialise l'union. Au XVIe siècle, les maîtres de Flandre multiplient les scènes domestiques où les chiens rasent le sol ou guettent les gibiers qui s'épanouissent sur les tables. 1648 accouche de la première peinture animalière avec deux chiens attachés à une souche pour seul personnage. En 1656, les Ménines font une place au meilleur ami de l'homme dans la somptuosité, si bien qu'au XVIIIe, on constate que c'est la consécration. Le chien est un personnage à part entière, parfois même mis en portrait. Ainsi, en 1725, à la demande de Louis XV, ses levrettes sont peintes par Oudry. Le roi insistera même pour assister à la séance de pose de ses deux animaux préférés. En 1740 déjà, François Boucher peint aussi une jeune femme au carlin, qui n'est autre que sa jeune femme, de 30 ans sa cadette. Cet animal, dont Rousseau affirme la sensibilité fin XVIIIe, passe donc de motif à personnage, il est aussi le signe d'une relation. Associé aux figures féminines, il renvoie surtout à la fidélité matrimoniale. Ici, par le truchement du chien, la jeune fille est invitée à se soumettre dans une relation fidèle au garçon. C'est peut-être même la femme, invitée à un beau maintien, à faire la belle en vue d'une récompense, sinon substantielle, sensuelle, accordée par l'homme. Être la favorite, dans ou hors mariage, est sans doute la vocation de la femme mondaine d'un XVIIIe siècle aux mœurs assouplies et émancipatrices. Femme, fidélité, sensualité, pastoralité, artifice et naturalisme sont au cœur de cette peinture visant à conduire la rêverie de son commanditaire. C'est aussi comme une quintessence de la peinture tardive du peintre. Elle concentre toute sa manière, celle qui fit son succès, et fit aussi dire à son contemporain Diderot, dans une critique ambiguë, « Quelle couleur, quelle variété, quelle richesse d'objets et d'idées, l'homme a tout, excepté la vérité. » Voilà, mes amis, j'espère que ce nouvel épisode de Bande à part contribuera à vous rendre toujours plus enclin à nous écouter fidèlement. À très bientôt sur Radio Alliance Plus. N'oubliez pas de vous rendre au musée et portez-vous bien.